Troisième partie pour ce Radio Barque. Alors, comme je l'avais indiqué en début d'émission, Thierry Pfister est notre invité aujourd'hui. Thierry Pfister, vous habitez aujourd'hui à Narbonne parce que vous avez choisi d'y habiter au moment de la retraite, mais
Oui, il y a un peu de vent.
C'était pour les éoliennes, sans doute. Mais votre vie professionnelle s'est déroulée entièrement à Paris, dont une grande partie d'ailleurs dans les sphères du journalisme et du pouvoir politique, ou les deux à la fois. Vous nous expliquerez tout ça. Journaliste au Monde, au Nouvel Obs, puis vous avez travaillé à Matignon sous le cabinet de Pierre Mauroy de 80, je crois, à 84. Et pourtant, votre livre qui vous vaut d'être là aujourd'hui, je cite ce que vous écrivez en page 13. « Adolescent, je rêvais d'une carrière politique. » Adulte, rien ne s'opposait à ce que cette ambition soit assouvie. Toutes les portes m'ont été ouvertes et je n'en ai franchi aucune ou presque. Des circonscriptions offertes, des filières proposées, des mentors prestigieux disposés à m'embarquer dans leur aventure personnelle. J'ai parfois hésité et toujours reculé, non par crainte, mais en raison d'une absence d'adhésion. Alors, il va falloir que vous nous expliquiez ceci, Thierry Pfister. Pour en finir avec cette brève présentation, j'ajouterai que, étudiant à Lille, vous avez occupé des fonctions importantes à la tête des jeunes SFIO, c'est l'équivalent plus ou moins des jeunes socialistes aujourd'hui. Toutefois, assez vite, vous avez, pour reprendre le sous-titre de votre livre, vous avez désespéré des socialistes et écrit des livres parfois rudes envers le PS. Je pense à la génération Mitterrand qui marche à côté de ses pompes, etc., etc. Alors, Thierry Pfister, finalement, vous avez un parcours atypique et vous êtes, dans le monde politique, un personnage atypique parce que des gens qui cherchent le pouvoir, on en connaît plein. Des gens à qui on offre du pouvoir et qui le refusent, on en connaît beaucoup moins, n'est-ce pas, Michel ?
Comment dire ?
Des gens à qui on offre du pouvoir et qui le refusent, du pouvoir politique.
Oui, mais je note quand même le « ou presque » de la phrase que tu as citée.
Oui. Alors Thierry, qu'est-ce que ça signifie, cette absence d'adhésion ?
Écoutez, pour le résumer d'un mot, je dirais que pour que je m'engage, il ne faut pas simplement une adhésion intellectuelle, il faut aussi un lien affectif. Et que j'ai eu du mal à nouer ce lien affectif. Je l'ai noué avec Pierre Mauroy, mais il existait avant qu'il ne devienne Premier ministre. Mais quand d'autres me l'ont proposé, je pense à François Mitterrand, je pense à Lionel Jospin, ce lien affectif n'existant pas, le jugement que j'avais sur ces hommes étant ambivalent, c'est-à-dire qu'à la fois je leur reconnaissais des qualités et je pouvais partager une partie même importante de leur combat politique, mais il y avait dans leur personnalité des éléments qui me rebutaient. Je ne pouvais pas m'engager à ce point en me mettant à leur service.
Oui, c'est-à-dire vous donnez l'impression de quelqu'un qui veut rester spectateur, qui connaît bien la scène, mais qui préfère rester soit spectateur, soit dans les coulisses, mais qui ne veut pas véritablement monter sur la scène devant le public. Est-ce que c'est un peu ça ?
Je suis d'accord. C'est-à-dire que je me souviens d'une réunion de travail, comme on en avait souvent le soir avec Pierre Mauroy. Mauroy est quelqu'un avec qui on travaillait à l'oral. C'est pas quelqu'un qui on donnait des notes, c'est-à-dire qu'il avait quelques collaborateurs, 3, 4, 5, 6 au maximum, qui lisaient pour lui, qui faisaient des synthèses et qui les lui restituaient oralement. Et à partir de là, on engageait un dialogue. C'était sa méthode de travail et il travaillait un peu comme une éponge, si vous voulez. D'ailleurs, avec une efficacité qui m'a toujours étonné.
Il absorbait bien.
Il absorbait très bien. Eh bien, à la fin d'une de ces séances de travail, il avait susurré comme ça, ah, tu mériterais d'être ministre. Je pense que dans son esprit, il voulait dire par là, mais jamais Mitterrand n'acceptera, ou un truc comme ça. Et moi, je me souviens très bien que ma réaction, ça avait été, mais j'ai rien dit, mais ma réaction avait été de dire, non, c'est pas ma fonction. Ma fonction, ça peut être d'être conseiller, c'est-à-dire de faire ce travail de l'ombre comme un éditeur. Puisque, en fait, vous avez dit que j'étais journaliste et que j'avais fait de la politique, mais en fait, dans ma carrière, la moitié de ma carrière, c'est-à-dire 20 ans, c'est-à-dire quand même un grand laps de temps, ça a été d'être éditeur, c'est-à-dire être derrière, faire le boulot. Mais être sur le devant de la scène, c'est pas mon truc.
Et ce manque d'adhésion, est-ce qu'il peut être lié à un drame familial que vous avez reçu et que vous avez, qui vous a été infligé et qui est relativement lié à la politique, à mai 68 et
oui,
à tout ce cortège?
Oui, bien sûr, c'est un événement central dans mon existence.
Un jeune frère à vous qui s'est suicidé.
Mon petit frère s'est suicidé. Alors je dis toujours mon petit frère, alors qu'il était adulte quand il l'a fait, et que ça n'était plus le petit garçon que j'ai connu. Mais il se trouve que, pour faire l'histoire familiale très très vite, nous étions 6 garçons, les 4 premiers formaient un ensemble, puis il y a eu Ravisé 1 et Ravisé 2. Donc moi j'avais 5 ans de décalage, et les 7 premières années de ma vie, je les ai vécues presque comme un enfant unique. Et puis il y a un petit frère qui a surgi quand j'avais déjà 7 ans, et donc, on a grandi tous les deux, et moi, en tuteur, si vous voulez. Donc,
Il
avait 15 ans, il était au lycée quand il y a eu mai 68. Et nous, moi, j'étais en troisième cycle à l'époque, et puis au service militaire. Donc, j'étais déjà quasiment un adulte. Donc, j'ai vécu ça de manière très forte, mais quand même avec suffisamment déjà de recul pour savoir que quelque part je me leurrais moi-même. Tandis qu'un gamin de 15 ans.
Donc lui il tomberait dans le piège, en quelque sorte.
Voilà, il l'a vécu.
Dans l'illusion totale.
Et je dois dire qu'un certain nombre d'adultes ensuite, enfin de jeunes adultes ensuite, ont, vis-à-vis de ces adolescents, eu le même comportement que certains imams ou musulmans ont vis-à-vis d'autres adolescents aujourd'hui, en les engageant dans des combats qu'ils savent quelque part sans issue. Et un certain nombre de ces jeunes se sont suicidés, plusieurs dizaines.
Une forte déception.
Par une forte déception à caractère politique et comme le sentiment que finalement cette société était invivable au sens strict du terme.
C'est ces gens que vous appelez dans votre livre les endoctrineurs.
Oui.
Vous citez un certain nombre de noms parmi les plus célèbres.
Je cite
Serge Julie
ou Henri Weber. Henri Weber qui était le gardien de l'orthodoxie de la Ligue communiste révolutionnaire et qui ensuite a fait une carrière de notable modéré social-démocrate au Sénat. Donc c'est, voilà.
Oui, voilà. Et alors vous, il y a une phrase aussi que j'ai relevée dans votre livre à ce sujet. Je cite, je ne laisserai jamais personne dire qu'avoir 15 ans en 1968 est le plus bel âge de la vie.
Mmh. Oui,
c'est le bandeau
que j'ai mis sur le livre de poèmes que j'ai fait publier par Mare Nostrum. Quand j'ai attendu pour le publier que ma mère soit décédée parce que je ne voulais pas lui réinfliger cette blessure.
Et alors, vous avez donc écrit un certain nombre de livres. C'est pas le premier qui est un petit peu parfois désobligeant pour les socialistes. J'en citais un tout à l'heure. Mais vous faites état quand même de ce que vous appelez votre part de vérité. Alors, votre livre, c'est pas un historique du socialisme et de la SFIO, mais enfin quand même une grande page d'histoire de cette époque que vous avez vécue.
Ben, j'ai vécu 50 ans d'histoire du Parti socialiste, à la fois comme acteur au début, puis comme témoin privilégié quand je suivais les activités de la gauche au service politique du Monde, à nouveau comme acteur à Matignon, et puis comme spectateur privilégié d'une certaine manière, mais plus lointain quand même, comme éditeur.
Oui, Michel.
Oui, il faudrait pas limiter ce livre à simplement les rapports entre l'histoire vécue par Thierry Pfister au sein de la mouvement socialiste. Moi, je l'ai lu, en fait, et avec beaucoup d'intérêt, parce qu'au-delà, en fait, enfin, pour aller vite, quoi. Hein, socialiste ou pas, peu importe. C'est un livre sur la mécanique du pouvoir.
Oui, il y a une analyse.
C'est, c'est un livre sur la mécanique du pouvoir à travers des scènes vécues, en fait, qui donnent du sens à tout un tas de théories, en fait, sur le politique, sur le sujet. C'est un sujet qui est très intéressant parce qu'on le lit de manière très, très, très cursive, en fait, sans très, très lié. En plus, il a un talent d'écriture extraordinaire, ce monsieur. Donc, c'est souple, c'est léger. Et en même temps, c'est très profond dans l'analyse de ce qui se passe dans la mécanique, en fait, au cœur du pouvoir.
Ça pourrait d'ailleurs être valable pour d'autres partis, très certainement.
Oui, moi je me souviens quand j'étais à l'université, bon, je faisais de la socio comme ça, et puis un jour, je suis tombé sur le Lucien Levin de Stendhal, et j'ai laissé tomber tous mes bouquins, en fait, d'analyse sociologique sur...
C'est trop d'honneur.
Et je me suis dit, ben voilà, dans Lucien Levin, bon, j'ai découvert des choses, et j'ai appris, en fait, des choses sur le pouvoir, la mécanique du pouvoir, que je ne trouvais pas dans des livres de théorie. Donc c'est un peu ça, quoi. Donc je vous conseille à nos auditeurs de le lire, avec attention.
Oui, tous les gens qui
s'intéressent. Mais c'est vrai que ce qui a déclenché l'écriture de ce livre, qui a mis un terme à ma procrastination, c'est un étudiant, un thésard, qui était venu me voir à Narbonne il y a presque un an pour me faire parler de la fin de la SFIO et des débuts du PS. Et il me parlait d'articles que j'avais publiés à l'époque dans la revue socialiste ou dans des bulletins encore moins connus. Et ça n'évoquait rien pour moi. Mm-hmm. Ce qui, en revanche, faisait ressurgir d'autres types de souvenirs, oui, beaucoup plus concrets, beaucoup plus sensibles.
Voilà, et un autre regard, presque un contre-regard, en tout cas. Celui
un contre-regard, absolument.
Celui que vous avez vécu. Et alors, ce titre un peu énigmatique, tu ne crois pas que tu exagères? Expliquez-le. Est-ce que c'est... Vous le dites à vous-même, est-ce que c'est
non,
ça?
Non, non, c'est une remarque que Pierre Mauroy m'avait faite un jour que nous nous rendions à l'Assemblée générale des Nations Unies. On était dans le Concorde, on était serrés. C'est un très bel avion, enfin, oui, très prestigieux, mais il est assez étroit. Il était assez étroit et donc nous étions côte à côte. Il revoyait une dernière fois son discours et l'hôtesse nous a demandé de remplir les fiches de débarquement. Donc j'ai rempli celle de Mauroy, puis la mienne. Et au moment de mettre profession, j'ai mis agent contractuel de l'État, ce qui me paraissait être mon statut. Parce que conseiller de Premier ministre, c'est pas un métier. Et Pierre Mauroy, qui regardait du coin de l'œil ce que j'étais en train d'écrire, a simplement dit « Tu ne crois pas que tu exagères ».
Mais cette phrase, vous la reprenez souvent dans le livre. Alors est-ce que vous la retournez vers vous-même?
Vous êtes trop féru en matière d'humour pour ne pas comprendre que je me la retourne à moi-même, mais de manière ironique.
Alors, les socialistes que vous avez connus, la plupart des grands noms, vous en avez cité quelques-uns, dans votre livre, il y en a quand même pas mal qui, comme on dit populairement, sont habillés pour l'hiver. C'est-à-dire, vous en faites des portraits qui sont absolument sans complaisance. Par exemple, un exemple, Chevènement. Il n'a jamais supporté la moindre concurrence. Le CRS étant sa chose, il ne peut exprimer que sa pensée. Et puis sur son surnom, le Che, ça c'est assez...
Le Che
pour l'humour. Il adore être surnommé ainsi, par référence au révolutionnaire castriste Guevara, surnommé lui le Che, une manière pour lui, Chevènement, d'entrer dans l'histoire, ou au moins par effraction. Ça c'est rude quand même.
Ah ben écoutez, le CRS aura quand même eu un grand mérite. Ça a été une excellente école de cadre pour l'extrême droite.
C'est ce que vous dites également.
C'est une phrase terrible, oui.
C'est ce que vous dites également, oui, Michel.
Il faut dire que Thierry Pfister n'aime pas du tout, ça je l'ai découvert en lisant son bouquin, ce qu'on appelle la deuxième gauche, notamment...
Ah oui, Rocard.
Notamment oui. Rocard et Hollande, qu'il met effectivement dans le même...
Et Valls,
que j'ai oublié, qu'il met effectivement dans la même orbe, si je puis dire. En fait, politique.
Ah oui, ah ben pour Valls, vous avez un mot qui est alors charmant. Pour lui, ambition passe avant conviction.
Bah écoutez, il a quand même changé souvent de chapelle au sein de la famille socialiste au gré de sa carrière et puis de qui est en tête. Donc il est pour Ségolène quand Ségolène est en tête, et il est pour Hollande quand Hollande est en tête, et maintenant il est en train de lui saper ce qui lui reste. C'est-à-dire que je trouve que François Giroud disait « on ne tire pas sur une ambulance », je trouve encore plus malséant de tirer sur un corbillard.
Vous traitez par ailleurs, M. Valls, c'est une girouette avec beaucoup de fermeté.
Oui, c'est une citation que je fais d'une tribune qui avait été publiée par un conseiller en communication dans le Figaro, si mes souvenirs sont bons, et dont je partage l'analyse.
Oui, Michel.
Une citation de François Mitterrand que j'ai découvert en lisant le livre à propos de Rocard. En fait. Il sait tout, mais il ne comprend rien.
J'avoue... Je pense que c'est assez juste.
Tout à fait remarquable.
Il y a d'autres personnages. Concision. Alors, certains des politiques ou certains qui étaient dans des parapolitiques, enfin ceux qui tournaient autour, qui sont pas mal habillés aussi. Je vois Alain Minc qui a toujours humé avec délice les effluves du pouvoir, faute de parvenir à s'y faufiler.
Écoutez, je viens de terminer le livre de Patrick Buisson, La cause du peuple. Il se trouve que parmi la galerie de portraits qu'il fait, il y a Alain Minc qui rôde autour de Sarkozy en essayant de se faufiler. Donc, voilà.
Oui, bon, bah, vous êtes en face tout à fait là-dessus.
Une dernière chose.
Oui, et Michel, dernière. Oui.
Il y a un passage d'anthologie dans ce livre. Celui que j'ai retenu, c'est le dîner en fait, auquel a participé en fait, Thierry Pfister chez Alain Minc. Alors là, deux pages extraordinaires d'humour, d'analyse politique du bonhomme, et d'une certaine manière de vivre, en fait, de vivre la politique, d'une certaine élite parisienne.
Quelqu'un qui est bien habillé aussi, alors là c'est une femme quand même, c'est pas la parité, mais enfin il faut
oui,
pas les
d'habitude
habiller.
On les déshabille, je sais bien. Mais...
Là, c'est Edith Cresson, alors je cite Thierry Pfister, selon le principe de Peter, tout poste sera occupé par un employé incapable d'en assumer la responsabilité. Et vous concluez, Edith Cresson a illustré la pertinence de ce principe durant son bref passage à Matignon.
Écoutez, je suis tout à fait favorable à la parité homme-femme.
Là, ce n'est pas une question de homme-femme, c'est une question
de... Je pense que le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes qui s'engagent en politique, mais plus généralement dans les tâches de gestion de la société, est une bonne chose. Ça n'est malheureusement pas un critère de qualité. D'ailleurs, Nadine Morano nous le montre chaque jour.
Voilà, c'est pas une question d'homme-femme, c'est une question, comme vous dites, de compétences.
Absolument.
Et ici, l'illustration de ce principe de Peter. Quant à Ségolène Royal, que vous avez connue comme jeune stagiaire en 1981, Vous soulignez qu'elle s'était montrée insupportable, cassante, autoritaire. Déjà,
absolument. C'était lors d'une réunion interministérielle que je présidais, puisque il faut toujours rappeler quand même que dans les institutions de la République française, le président de la République a effectivement une autorité que nul ne discute, et notamment une autorité politique quand il est majoritaire, c'est-à-dire dans les période de cohabitation, c'est différent, mais que le chef de l'administration, c'est le Premier ministre.
Bien sûr.
Donc, quand on prend des décisions, c'est sous l'autorité du Premier ministre et de ses représentants quand s'agit de réunions interministérielles. Je rappelle ce fait parce que souvent, dans la chronique journalistique, on imagine que le Premier ministre n'est pas au courant. Le Premier ministre est au courant de tout. Et quand, par exemple, Laurent Fabius, au moment de l'affaire du Rainbow Warrior, dit qu'il apprend par les journaux, l'Express, Le Monde, que telle ou telle équipe d'agents secrets français a fait quelque chose, il ment. Puisqu'à partir du moment où des officiers français en mission sont arrêtés sur un territoire étranger, il est prévenu dans l'heure qui suit.
Voilà. Bien sûr.
Oui, donc un portrait de gens, comme je le disais à l'instant et comme vous le soulignez, Thierry Pfister, bien habillé pour l'hiver. On n'en dévoilera pas plus parce qu'on donnera envie aux gens de lire ce livre. Donc encore une fois, comme Michel le faisait ressortir, il y a bien sûr une histoire de la SFIO et du Parti Socialiste à ses débuts, mais aussi continuellement une analyse sur le pouvoir, les rouages du pouvoir, le fonctionnement du pouvoir.
Exactement. Il aurait pu écrire le même livre sur la période, en fait, Balladur ou Sarkozy, exactement le même. C'est un très très bon bouquin.
Pour conclure, Thierry Pfister, vous l'avez à peine évoqué, bien sûr, on s'est concentré sur la partie politique, mais dans votre carrière, il y a 20 ans, passé dans l'édition. Chez Albin Michel. Est-ce que vous continuez encore à prévoir de futurs livres qui seront publiés chez Albin Michel, forcément ?
Je ne prévois pas. J'en suis dans la phase liée à mon âge. Et à ma retraite, où j'en suis à vider les fonds de tiroirs. Donc, mes tiroirs ne sont pas encore totalement vidés.
Ah, voilà. Une réponse laconique, mais tout à fait éloquente, qui laisse entendre qu'il y aura d'autres ouvrages.
Donc, alors, prochain rendez-vous, évidemment.
Je ne sais pas si ça sera le prochain 350 pages comme celui-ci, mais enfin, il y aura sans doute de la matière. Merci Thierry Pfister pour votre livre. Donc, tu ne crois pas que tu exagères, point d'exclamation et non pas d'interrogation, ou sous-titre « Comment ne pas désespérer des socialistes ?» à lire chez Albin Michel. Le prochain Radio Barque, eh bien, verra quelqu'un qui a écrit aussi un livre, alors tout à fait différent, puisque nous recevrons l'historienne narbonnaise Chantal Alibert pour son livre sur Narbonne, qu'elle intitule d'ailleurs « Regard d'hier et d'aujourd'hui ». On verra si ce sont des regards ou des contre-regards qui siéraient davantage à ce type d'émission. Merci. En quelques mots peut-être sur de futurs invités. Mais nous aurons d'abord des maires, Henri Martin, un président d'Aglo nommé Jacques Bascou très prochainement.
Ah, tiens.
Un peu plus tard, mais ça sera en janvier, Marion Thibat du PNR qui viendra nous parler d'un certain nombre de choses également sur ce que fait ce parc naturel régional. Nous donnons rendez-vous, bien entendu, à la semaine prochaine. Merci et à...
Très bientôt.
Très bientôt. Au revoir, Thierry Pfister.
Au revoir.